Merci de rester à l'écoute de RFI. Il est midi à Paris, 10h en temps universel. Le journal, c'est tout de suite avec vous, Gilles Moreau, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Dans l'actualité, Benjamin Netanyahou prévient qu'Israël va prendre le contrôle de toute la bande de Gaza. L'armée vient d'appeler à évacuer certains secteurs du sud de l'enclave. Et si l'État hébreu doit empêcher une famine, c'est pour des raisons diplomatiques, reconnaît le Premier ministre. Nombreuses réactions en Europe pour saluer la victoire de Nicos Orban, le nouveau président roumain, un pro-européen et un soutien de l'Ukraine. En Pologne, le maire pro-européen de Varsovie a remporté de peu le premier tour de la présidentielle. Le second tour, le 1er juin, s'annonce indécis. Également dans l'actualité, la 8e édition de Chosen France, la grande opération de séduction des investisseurs étrangers. Le château de Versailles accueille ce lundi plus de 200 patrons issus des 5 continents. Israël va prendre le contrôle de tout le territoire de la bande de Gaza, donc déclaration ce matin du Premier ministre Benjamin Netanyahou. En plein regain d'offensives militaires israéliennes sur l'enclave palestinienne, de nouveaux ordres d'évacuation ont été lancés ce matin, ajoutant au désarroi de la population. Écoutez le reportage d'Amira Swilem, notre correspondante dans les territoires.
Après avoir mis tous ses espoirs dans la visite au Moyen-Orient de Donald Trump, Ayed, comme beaucoup de Gazaouis, déchante après l'annonce du lancement de l'offensive terrestre israélienne.
On a tout d'abord peur de nouveaux massacres. Les gens pensent que cette annonce sonne le début de nouveaux massacres, d'autant que le bilan des opérations précédentes est catastrophique en termes humains et de destruction. Beaucoup craignent ici que cette opération soit encore plus dure et meurtrière.
Réfugié à Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, Ayed a décidé de ne plus bouger et d'y rester avec sa femme et leurs 4 enfants.
Il y a une colère forte face aux tentatives de pousser la population à fuir encore une fois. Beaucoup disent qu'ils préfèrent mourir là où ils sont plutôt que d'être déplacés encore. Il y a un sentiment de trahison de la part de la communauté internationale. Les Gazaouis ont l'impression qu'elles se contentent de faire des communiqués sans prendre de réelles mesures pour stopper Israël et pour mettre fin au génocide à Gaza. Ils pensent que le silence du monde permet aux crimes de continuer.
À peine l'annonce de l'offensive terrestre faite, on apprenait hier soir que l'hôpital indonésien de Gaza subissait un assaut de l'armée israélienne. Amira Swilem, Naplouse.
Ce matin, Benjamin Netanyahou a donc prévenu qu'Israël allait prendre le contrôle de toute la bande de Gaza. Il a aussi attribué à des pressions diplomatiques sa décision d'autoriser une reprise limitée de l'aide humanitaire. La présidentielle en Roumanie était surveillée de près dans les capitales européennes. Les messages ont afflué à l'annonce de la victoire du candidat pro-européen, le maire de Bucarest, Nicos Orban. Pour n'en citer que deux, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a salué le choix d'une Europe forte. Et pour Emmanuel Macron, la démocratie l'a emporté, malgré, dit-il, les nombreuses tentatives de manipulation. Alors que peu auraient parié sur lui il y a 2 semaines, Nicos Orban, victorieux du souverainiste Georges Simion, l'a emporté au second tour de la présidentielle avec un peu plus de 53% des suffrages. En Pologne aussi, un candidat pro-européen reste bien placé. C'est le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski. Il est arrivé légèrement en tête hier au premier tour de la présidentielle devant le candidat soutenu par le Parti conservateur Droit et Justice. Les deux hommes vont s'affronter au second tour le 1er juin. Le report de voix s'annonce compliqué pour le maire de Varsovie. C'est d'ailleurs le constat que font de nombreux militants, à l'image de Zbiszczek, un entrepreneur de 60 ans. Il est au micro de Daniel Valou.
J'espérais qu'il obtiendrait un soutien plus fort dès le premier tour. L'écart entre les deux est vraiment faible. Moi, j'imaginais 5 points d'écart. On en est loin. Vraiment, Navroski a fait mieux que prévu. Et en plus, si on additionne ses voix avec celles de Mensen, le candidat d'extrême droite, eh bien on ne sait pas ce que ça va donner ce deuxième tour.
Le maire de Varsovie va maintenant tenter de convaincre les abstentionnistes d'aller voter le 1er juin. Pour cela, il va devoir soigner ses arguments. C'est le vœu que forme Anna, une militante de la plateforme civique.
Il a fait une bonne campagne, mais il faut qu'il en fasse davantage. Il doit dire qu'il va baisser les impôts et il doit s'adresser accès aux femmes. Il doit prendre parti pour le droit à l'avortement. C'est très important. Bien sûr, en Pologne, il y a beaucoup d'électeurs âgés qui sont catholiques, alors c'est difficile, mais je crois que la femme doit décider pour elle. C'est important.
Reportage à Varsovie de notre envoyé spécial Daniel Vallaud. Et puis dans l'actualité électorale en Europe, il y a aussi les résultats des législatives au Portugal. Elles ont vu hier la victoire du Premier ministre issu de la droite modérée, mais il n'a toujours pas de majorité suffisante pour se passer d'allié au Parlement. L'extrême droite portugaise, elle, continue de progresser. Pour la première fois, elle atteint la barre des 20% des voix. C'est un coup de fil à la fois très médiatisé et dont l'efficacité est loin d'être garantie. Donald Trump et Vladimir Poutine ont rendez-vous ce lundi au téléphone. Un appel qui est loin de convaincre en Ukraine. Pas beaucoup d'enthousiasme non plus côté russe. Anissa El Jabri.
Pas beaucoup d'attente. En tout cas, le Kremlin s'était borné ce week-end à dire que le coup de fil, le troisième en tout cas officiellement entre les deux chefs d'État, était en préparation. Alors c'est peut-être aussi une question de prudence, mais en tout cas les médias légitimistes ou pas n'en font pas beaucoup ce matin. Il y a une heure, par exemple, la première chaîne de télévision, Pierre-Louis Canal, en a fait le cinquième sujet de son édition, après quand même un reportage sur une course de bateau en Chine. Certaines chaînes y consacrent à peine une vingtaine de secondes. Et puis un journal dans la ligne du Kremlin, comme la Komsomolskaya Pravda, lui titre sur Trump espère un cessez-le-feu en Ukraine et pas un mot sur la position russe. Enfin, et ce n'est pas le seul à mentionner ce sujet ce matin, le journal Vedomosti, lui, cite un expert qui exclut la possibilité de percée diplomatique décisive dans un avenir proche, et car pour cet expert, eh bien, c'est une rencontre personnelle entre Trump et Poutine qui doit avoir lieu et doit faire avancer les choses. À en croire les médias russes, cette rencontre serait sur les rails. Cette rencontre au sommet entre les deux dirigeants, c'est ce qu'attend réellement le Kremlin. À ses yeux, c'est un retour à une guerre froide qui donne du prestige à Moscou quand Moscou et Washington étaient les deux superpuissances.
Anissa El Jabri à Moscou pour RFI. Et ce matin, le Kremlin a jugé important l'appel à venir Poutine-Trump après les discussions d'Istanbul la semaine dernière. On a appris hier soir que Joe Biden, 82 ans, était soigné pour une forme agressive d'un cancer de la prostate avec métastase osseuse. Donald Trump s'est dit attristé par cette annonce. Aux États-Unis, un livre enquête doit paraître demain. Il raconte par le menu le lent déclin physique et cognitif de l'ancien président démocrate au fil de son mandat. En France, plus de 200 patrons issus des 5 continents sont reçus ce lundi au château de Versailles. C'est la 8e édition du sommet Chosen France, événement destiné à attirer les investissements étrangers. Cette année, il doit battre un nouveau record avec quelques 20 milliards d'euros de projets nouveaux. En tout, une cinquantaine de projets seront dévoilés ou confirmés. On passe au football. La saison de Ligue 1, le championnat de France a pris fin ce week-end. En Italie, cette fois, encore une journée en Serie A. La lutte pour le titre est toujours aussi animé entre le leader Naples et l'Inter Milan qui n'est qu'à un point. L'Inter qui pour l'instant veut éviter de penser à la finale de la Ligue des Champions. Ce sera le 31 mai face au Paris Saint-Germain. Reportage à Milan de Cédric De Oliveira.
En sortant de l'imposant stade Giuseppe Meazza, Tommaso a beaucoup ressassé le scénario de ce duel face à la Lazio Rome. Un match nul de partout très décevant concédé en toute fin de rencontre. Alors le PSG et la finale de la Ligue des Champions, évidemment c'est un rêve, mais pas pour tout de suite.
Un peu oui, mais là franchement je pense à la Serie A. Ce n'est pas fini, il y a encore de l'espoir. On a encore un point de retard sur Naples. Et le championnat, c'est très important. On va bien terminer et ensuite on pensera à la Ligue des Champions.
Alors qu'une victoire leur tendait les bras, les Milanais sont toujours un point derrière Naples à une journée de la fin. Une désillusion. D'ailleurs, ni les joueurs ni l'entraîneur interiste Simone Inzaghi ne se sont exprimés après le match. Il a donc fallu demander à Alfio Musmara, un journaliste d'Antena 3, une chaîne lombarde, comment l'Inter allait pouvoir préparer cette finale.
Mais c'est difficile, c'est très difficile d'y penser aujourd'hui. Tous les titulaires étaient là contre la Lazio, donc tout le monde est focalisé sur ce championnat. Il reste encore du temps pour penser à Paris, mais ce sera un match équilibré.
Pour l'instant, l'Inter va donc devoir digérer sa contre-performance du jour et disputer un dernier match de championnat contre Côme, vraisemblablement ce jeudi. Ensuite, il sera temps de basculer définitivement vers le rendez-vous à Munich le 31 mai face au PSG. Cédric de Oliveira, Milan, RFI.
Un mot enfin de tennis à l'approche de Roland-Garros. L'Espagnol Carlos Alcaraz, vainqueur hier du tournoi de Rome contre Yannick Sinner. Alcaraz reprend sa deuxième place au classement mondial. Le premier est toujours l'Italien Sinner. Voilà, je vous retrouve à 13h pour un nouveau journal. Tout de suite, 8 milliards de voisins. Emmanuel Bastide, bonjour.
Bonjour Gilles Moreau et merci à vous.